En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Le passé, c'est le passé, je ne veux pas en parler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes.
This was an extraordinary story, but lived by ordinary men, as me.
L'histoire du jour commence en Argentine, par un matin d'automne 1972, sur une des pistes de l'aéroport de Carrascon, en Uruguay. Le bel avion blanc qui décolle est un bimoteur qui part pour Santiago, au Chili. Équipage compris, il emporte 47 personnes, dont beaucoup de jeunes rugbymen, d'une équipe de Montevideo, les Old Christians. Pour échapper aux intempéries, le commandant de bord décide de se dérouter et se lance à travers la cordillère des Andes. La navigation est difficile, ça se couse salement, et les instruments de navigation lâchent les uns après les autres. Après quelques heures de vol, le commandant estime tout de même qu'il a dû passer et entame sa descente. Le gag, c'est qu'il est toujours au-dessus des Andes, le vent de face a complètement niqué ses estimations. Arrive ce qui devait arriver, l'aile droite touche une pente rocheuse et décide de démissionner juste avant l'aile gauche qui touche une autre paroi. Évidemment, un fuselage tout seul, ça vole à peu près aussi bien qu'une baignoire. La chance des passagers, c'est qu'au lieu de bugner à angle droit, la carlingue touche un glacier relativement plat. L'arrière du fuselage part à dame avec 17 passagers, tandis que la partie avant s'arrête après quelques centaines de mètres. Les 30 survivants sont dans l'état que vous pouvez imaginer. Le temps de se demander où diable a bien pu passer mémé, ils finissent par chercher où ils sont tombés. Eh ben c'est pas dur, ils sont exactement au beau milieu de nulle part, mais plus haut, à 3600 mètres d'altitude. Dans le jargon aéronautique, c'est ce qu'on appelle techniquement une bonne grosse panade. Le premier choc passé, ils s'organisent. Au début, ils ont plutôt le moral, la plupart sont en pleine forme. Leur vol était connu, le pilote a prévenu quand il a changé de route. Et mieux, la radio fonctionne. Enfin, à moitié, les rescapés ne peuvent pas émettre, seulement écouter, ce qui leur permet de suivre l'état des recherches. De quoi se motiver pour résister au froid et au vent. L'eau, c'est pas un problème, il y a de la neige partout. La bouffe, en revanche, c'est pas ça. Il n'y a quasiment rien dans l'avion, et ce rien est vite bouffé. Et puis au soir du troisième jour, tout le monde prend un bon coup sur la calebasse. La radio annonce la fin des recherches. Et franchement, c'est logique. Pourquoi ? D'abord parce que personne ne pense qu'on puisse survivre à un crash dans les Andes. Ensuite parce que l'avion est blanc. Et ça, sur la neige, ça revient à chercher une coquillette dans une fabrique de nouilles. Trois rescapés claquent de leurs blessures. Les 27 survivants, eux, décident de s'occuper en mourant de faim. Après 15 jours, ils bouffent de tout, y compris leur grolle ou du dentifrice. Ils en sont à attaquer le crâne des sièges quand ils se prennent une avalanche à travers la gueule parce que Dieu n'a jamais su résister à une bonne blague. Boum, 8 de moins, ce qui ne change rien au fait que la faim continue de torturer les 19 survivants. Et alors je ne sais pas qui a pensé en premier, c'est sans doute une suggestion qu'on rumine un moment si j'ose dire, mais quelqu'un finit par faire remarquer qu'il y en a de la bouffe, il y en a même partout. Le problème, c'est que se tailler un steak dans la cuisse du troisième ligne avec qui on buvait des coups il n'y a pas 3 semaines, ça demande de casser quelques tabous. À 4000 mètres commence alors une sorte de concile, un pacte est conclu. Chacun autorise les autres à se nourrir de sa chair s'il meurt. C'est Roberto Canessa, le médecin, qui casse l'interdit. Avec un morceau de vitre brisé, il découpe une vingtaine de petites lanières de chair dans le corps d'un de ses camarades, et comme personne ne fait un geste, il va au bout de sa décision. Beaucoup pleurent, vomissent, tous prient. Certains essaient de cuire la viande. C'est mieux, mais ils arrêtent vite. L'odeur de chair qui cuit leur fait venir l'eau à la bouche par pur réflexe. Et la culpabilité est insoutenable. On approche de Noël. Et comment dire, le frigo se vide quand deux des rescapés prennent une décision. Partir chercher les secours. Le sac bourré de viande, Fernando Parado et Roberto Canessa se mettent en route. Sans aucune carte, ils marchent 70 km en 10 jours. Tous ceux qui ont randonné en haute montagne savent ce que ça veut dire. Ça revient à risquer sa peau à chaque pas, les crevasses, les chutes, le froid, la glace, le vent. Mi-décembre, les deux hommes arrivent près d'une rivière et soudain, en face, aperçoivent un paysan. Les deux hommes hurlent, lui font de grands signes et le type se barre, effrayé par ces deux bitniques barbus qui lui hurlent des trucs incompréhensibles. Finalement, le brave homme revient, on s'explique, il comprend, il repart chercher des secours à dos d'âne. Et le 21 décembre, deux hélicos, guidés par Fernando et Roberto, rejoignent la carlingue et leurs compagnons. Là, les sauveteurs remarquent qu'il n'y a pas tout à fait que des carcasses d'avions dans la zone et demandent si ce sont les condors qui ont fait ça. Tout le monde regarde ses pompes d'un air gêné, jusqu'à ce que Fernando, encore lui, assume. 16 des 47 passagers seulement ont survécu au crash du vol 571. Leur calvaire a duré 72 jours. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
When you are in front of the dead body of a friend with a piece of glass in your hand, your hand doesn't obey you.
Nova.